RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Junior. Bonjour à tous. Vous êtes prêts à dégainer le 32-16 pour discuter avec les GG? Tant mieux, parce qu'on est là avec vous jusqu'à midi comme tous les jours depuis 21 saisons maintenant. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les grandes gueules, le docteur Marty, notre médecin généraliste. Bonjour mon cher docteur.
Et un docteur victorieux.
Oui, oui, bah oui, raconte-nous, parce que quand même, on t'avait laissé gréviste.
Ça.
La grève est terminée et vous avez gagné.
Une grève de 10 jours et on a fait reculer le gouvernement sur beaucoup de points. Alors pas tous, hein, il reste les confrères qui sont en secteur 3, c'est-à-dire hors convention, qui restent à défendre, on ira au juridique pour ça, mais pour le reste, le gouvernement a bien reculé. Alors maintenant, c'est l'épreuve des faits, hein, au travail. On a envie de leur dire, il va falloir qu'ils appliquent ce qu'ils ont dit. On va être extrêmement attentif à cela, parce qu'ils ont écrit qu'ils allaient nous donner raison sur plein de points. On va voir s'ils les mettent en œuvre.
Et en attendant, les Français galèrent toujours pour avoir des rendez-vous chez le médecin.
C'est ça, mais c'est pour eux qu'on s'est battu, parce que nous, c'était pas des revendications tarifaires, c'était vraiment des revendications de défense de l'éthique, de la déontologie, de ce qui fait les piliers de la médecine. Et donc, on s'est battu pour les patients et on va continuer à le faire, parce que la situation est désastreuse.
Ces patients qui vont en Belgique pour se faire soigner.
On va en parler tout à l'heure.
Ouais, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous faites partie de ces patients, alors notamment du côté du nord de la France?
Oui, parce que si t'habites dans le sud, c'est quand même un peu loin.
Pour aller en Belgique, c'est pas simple. Et ou si t'es dans le nord, tu cherches des médecins en Espagne, c'est plus compliqué aussi. Enfin, est-ce que vous allez chercher des médecins en Belgique? 32-16 pour nous le dire tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. Abel Boyer, l'éducateur, est des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour.
Salut
Abel.
Les amis, et j'en profite rapidement pour saluer Philippe Chouaïb, chauffeur VTC à Valence, qui est fan des GG, et ainsi que la classe de seconde, la team Pétard de l'Institut Notre-Dame à Valence aussi.
La team Pétard.
Pétard. Oula. C'est un surnom gentil que l'on s'est donné, mais qui ne représente aucun danger, ne vous inquiétez pas.
Ah bon? Quand des jeunes s'appellent Team Pétard, on pense à des choses.
Dans un instant, nous serons rejoints par Laura Varton-Martinez, notre amie sophrologue. Elle a eu un problème sur la route, elle a crevé, c'est des choses qui arrivent.
Ça arrive toujours à Laura quand même, j'ai remarqué.
Elle sera avec nous tout à l'heure, dans moins de 10 minutes. Est-ce qu'on doit instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre? Ce sont les députés emmenés par les Républicains qui veulent instaurer cet outil pour les policiers. C'est un débat qui revient régulièrement, hein, la présomption de légitime défense pour les policiers. C'est-à-dire qu'ils C'est-à-dire qu'ils puissent sortir leur arme dès qu'ils se sentent menacés.
En fait, cette proposition de loi qui n'a pas pu être débattue hier parce que c'était la pagaille à l'Assemblée nationale, donc ça sera sans doute une prochaine fois, elle contenait un seul et unique article qui visait à créer dans le code pénal une présomption de légitime défense pour le policier, y compris municipal, ou le gendarme qui fait usage de son arme, ça peut être une arme à feu, un tonfa, le taser, dans le cas de ses fonctions. Le texte prévoyait néanmoins que cette présomption de légitime défense puisse être renversée, bien sûr, si l'enquête judiciaire démontrait que l'utilisation de cette arme était manifestement disproportionnée. Aujourd'hui, la légitime défense est reconnue, mais elle est très très encadrée. Il y a deux conditions indispensables. L'infraction en riposte doit apparaître comme ayant été à la fois nécessaire au maintien de l'ordre et proportionnée au mal dont l'agression était porteuse et qu'elle a permis d'éviter. Il y a beaucoup de syndicats de policiers qui disent qu'ils ne sont pas assez protégés par cela et qu'à chaque fois, ils sont obligés de rendre des comptes et ça les met en danger et surtout, parfois, ça les fait hésiter aussi à intervenir dans des moments compliqués et chauds. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Ceux qui sont contre, notamment les socialistes, estiment que ça pourrait donner aux forces de l'ordre comme au grand public l'illusion d'une irresponsabilité pénale générale de nature à générer de forts risques juridiques chez les forces de l'ordre, tout en renforçant la méfiance d'une partie de la population à leur égard. Alors, de quel côté êtes-vous,
Abel?
Moi, je suis assez nuancé, je suis pas trop pour, honnêtement, parce que ça peut malheureusement être la voie ouverte à un certain nombre de dysfonctionnements, en plus de ce qu'il y a déjà. On sait déjà qu'il y a une défiance, notamment entre la police et une certaine partie de la population, pas toute bien entendu. une défiance qui est basée sur de la peur, sur de la confiance, et avec bien entendu des responsabilités qui peuvent être partagées des deux côtés. Si maintenant on instaure cette présomption de légitime défense, sachant qu'en plus au niveau des recrutements au sein de la police, pour discuter avec un certain nombre de policiers, on sait que ce n'est pas toujours ça, il y a des problèmes au niveau de la qualité du recrutement par moment, il y a des problèmes aussi au niveau de la formation, de l'affectation, ben, la crainte c'est de se retrouver avec un certain nombre de scandales, de personnes qui auraient tiré là où il ne faut pas et qui seraient surprotégées.
Par exemple,
je pense pas qu'on arrive à ce stade-là, mais malheureusement, ce type de cas peut se reproduire de façon plus récurrente. Et je pense que tant qu'on n'a pas réinstauré une confiance totale entre cette partie de la population qui est en défiance avec la police,
mais c'est qui cette partie de la population qui est en défiance?
Ça peut être une partie de la jeunesse, ça peut être une partie des adultes aussi. Voilà, c'est-à-dire que on sait que malheureusement il peut y avoir des brebis galeuses aussi bien dans la population que parmi les forces de l'ordre. Et ça, les forces de l'ordre ne le nient pas.
Les plus surveillées en France.
Mais justement, puisqu'elle est surveillée et puisqu'à chaque fois un policier ou un gendarme, lorsqu'il ou elle utilise son arme, fait l'objet d'une enquête, je ne vois pas en quoi cette présomption de légitime défense pourrait rajouter de l'efficacité
Jérôme,
à l'action des forces de l'ordre.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de policiers qui hésitent à intervenir à cause de la présomption d'innocence qui c'est aujourd'hui demande à faire la preuve de celle-ci aux policiers, quoi, et pas à celui qui n'est pas victime, qui a commis le supposé larcène ou la supposée violence, quoi. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de policiers qui hésitent? Moi, je soutiens les forces de l'ordre avant tout. Je crois en la justice de mon pays. Est-ce que il y a un vide ou une justice qui est mal exprimée, qui est mal faite dans ces cas-là, j'y crois pas trop. Moi, je crois plus que effectivement ça va créer encore plus de défiance. Effectivement, ça peut augmenter encore les violences faites aux forces de l'ordre qui vont apparaître, pour certaines parties notamment, comme des tueurs encore plus. Et ils manieront ce panneau en disant, vous le savez, pas de justice, pas de police, etc. Encore plus.
C'est bizarre comme argument.
C'est
parce qu'il y a des gens qui sont antiflics qu'il faut surtout pas renforcer pour l'argument, des policiers.
Faire une loi avec un seul article de loi, ce qui dans une loi est quand même assez curieux.
C'est une loi simple.
Porté par un parti groupusculaire aujourd'hui, qui n'a strictement aucune chance de passer. C'est une loi qui est faite pour les élections municipales qui arrivent derrière, qui cherche à faire un signal pour ensuite mettre en avant ce parti. Mais honnêtement, là, on instrumentalise un peu les policiers et les policiers municipaux pour faire un coup politique, parce que la loi, elle passera pas.
Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est la tambouille politicienne.
On discute sur quelque chose.
La majorité, c'est plus une majorité, enfin, le bloc central est plutôt favorable, mais il voudrait une loi un peu plus complexe.
Et voilà. Mais c'est ce que je te dis.
Un seul
article de loi,
mais
une loi, ça n'existe pas.
Quand même que ça va plutôt dans le bon sens. Les policiers sont assez demandeurs, et ceux qui sont contre, excuse-moi, on va pas donner raison à ceux qui sont contre les flics.
Non.
Enfin, tu vois, ce que je veux dire. Il y en a qui aiment pas les flics, faudrait pas renforcer cette haine.
Non, Olivier, pour te répondre.
La haine contre les flics, elle a toujours existé.
Pour te répondre, je crois que ce problème est suffisamment grave et complexe pour qu'il dépende d'une loi autrement plus fouillée qu'un seul article.
Tu me fais penser à ceux qui disaient il y a quelques années, oh là, la police municipale surtout pas, parce que là,
c'est pas du tout l'état de le faire.
Ensuite, la police municipale est arrivée, bon d'accord, c'est vrai que c'est quand même assez utile. Maintenant, après, c'est surtout pas l'armée, parce que tu comprends, puis maintenant quand même les villes de gauche commencent à armer leur police municipale. Vous voyez, on est toujours dans l'idée que le policier, il y a une présomption finalement, le policier est forcément violent. Il y a ce regard toujours qu'on a sur le
policier. La loi n'est pas appliquée.
Le policier français, le plus encadré de toutes les polices.
Je suis pour la police municipale armée à titre personnel. C'est-à-dire que être contre cette présomption de légitime défense ne veut pas dire être anti-flic en réalité. Je pense qu'il faut être plus nuancé sur la question.
Mais c'était votre argument. Vous parliez de ceux qui avaient une défiance et que ça va renforcer cette défiance. Vous mettez
bien entendu
ceux qui sont contre les policiers.
Mais parce que sur le terrain, et on sait très bien que c'est une mesure qui est remplie de démagogie, parce qu'on sait qu'à l'approche.
Sur le terrain. Pardon. Moi, je rencontre jamais des gens qui ont peur de la police.
Ben si, il y en a, mais ça dépend.
Qui a peur là?
Des personnes qui peuvent avoir peur de la police, et pas que dans les quartiers populaires, parce que je vois où tu veux en venir dans la question. T'as des personnes qui peuvent avoir des défiances, que ce soit parmi des jeunes, parmi des personnes adultes aussi, et pas forcément des personnes qui seraient délinquantes. Il y a un problème de communication au niveau de la police de façon globale vis-à-vis de la population, mais ça ne veut pas dire que l'on déteste la police lorsque l'on dit ça, et ça ne veut pas dire que la majorité de la population déteste la police non plus. La police française est appréciée et on en a besoin. Mais Mais cette mesure qui est démagogique, qui consiste juste à aux partis concernés à toujours être dans cette incarnation que nous allons
le
incarner
parti de l'ordre.
L'autorité exactement l'ordre. Eh ben non, je pense qu'il faut plutôt
pas. Oui, mais regarde, mais pardon, on est dans un pays où le recul de manière différente parce que aujourd'hui l'un des problèmes principaux des policiers c'est le refus d'obtempérer.
Dans ton histoire, c'est plutôt en défaveur des policiers.
Ça ne veut pas dire que à chaque refus d'obtempérer ou dès que la voiture fera 50 cm envers le policier, va sortir ton arme. Mais ça laissera peut-être un petit peu plus de latitude au policier et même à celui qui est dans la voiture de se dire « Ah ouais, mais là, attention !» on tombe pas dans l'américanisation, mais là, attention.
Oui, mais la police ne fait pas.
Je fais rien, si tu veux. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là.
Mais il faut le voir.
Le nombre de policiers qui aujourd'hui est blessé par un refus d'obtempérer, ou finalement,
ce qui est inadmissible, bien sûr.
Oui, mais c'est ce qui est marrant parce qu'en fait, vous décrivez le monde qui n'est pas le monde tel quel. Le monde dans lequel nous vivons, c'est l'autorité est de plus en plus remise en cause et pas respectée. Les policiers se font canarder lorsqu'ils arrivent dans les quartiers. Les refus d'obtempérer n'ont jamais été aussi importants. Avant, ça n'existait pas, le refus d'obtempérer. Quand le policier te demandait d'arrêter, tu t'arrêtais, tu réfléchis, même si tu savais que tu étais en faute. Et donc, en fait, vous nous décrivez un truc où les policiers seraient terribles.
Non, la peur a changé de corps.
C'est les policiers qui ont la trouille. Les policiers ont la trouille d'intervenir.
Olivier,
ils ont la trouille d'intervenir dans les manifestations, dans certains quartiers. Et là, vous êtes en train de dire, vous comprenez, ce serait.
Mais il faut leur donner plus de pouvoir. C'est pas du tout ce qu'on dit. D'abord, c'est pas un problème de couille. Il y a un problème. Ce que nous dit cette loi, c'est quoi? C'est que la charge de la preuve se trouve renversée.
Oui.
Bon, la charge de la preuve se trouve renversée parce que dans l'état actuel, les policiers sont visés quand ils sortent leur arme et la légitime défense est systématiquement laisse entendre cette loi contre eux.
Mais à chaque fois,
Pourquoi? Parce que les juges donc renversent cela en disant. Le policier est coupable. Est-ce que tu crois franchement que parce que tu changes la charge de la preuve,
ils seront plus poursuivis.
La justice va être en faveur du policier.
Ils seront plus poursuivis. Il y aura une loi
soit la justice est ce que laisse entendre certaines parties de gauche, etc. Elle va pas passer de droite parce que tu changes le truc. Donc c'est de l'affichage.
Antoine, qui veut réagir. Antoine qui est avec nous au 32-16. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour les GG.
Interne en médecine. Pourquoi vous vouliez réagir à cette affaire?
Je pense que j'ai une question. Combien de policiers ont été condamnés pour tout ce qu'ils ont, pour tout ce qu'ils font? Bon, les policiers, moi, j'ai rien contre la police. Hein. Les policiers, ils sont là pour assurer notre sécurité. Mais moi, il m'a déjà arrivé d'être agressé par la police. C'était la première fois. Et un jour, j'accompagnais ma copine parce qu'elle ne se sentait pas bien. Je l'accompagnais chez un médecin. Et sur la route, les policiers m'ont arrêté. C'était je me rappelle toujours de cette date. C'était le 28 février. Ils m'ont arrêté et ils m'ont dit bonjour messieurs, arrêtez-vous. Vous n'avez pas mis votre clientèle. Moi j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je me suis arrêté. J'ai dit est-ce qu'il y a une amende à payer? Ils m'ont dit vous allez payer une amende, mais là la machine ne marche pas. On va aller au commissariat. Vous allez payer au commissariat. Moi je faisais confiance à la police. J'ai dit je vous suis avec ma copine dans la voiture. Ils m'ont dit non. Vous laissez votre voiture à votre copine, vous entrez dans notre voiture, on va arriver au commissariat, vous allez payer, il n'y a pas de souci. Et c'était 4 policiers, 4 mecs et une femme. Et la femme, ma copine, elle a dit, c'est pas maman, ne fais pas ça. Et la femme policière, elle a dit, mais tu veux quoi, cette blanche-là? Parce que ma copine, elle est blanche et moi, je suis noir. En arrivant au commissariat, ils ont commencé à prendre mes empreintes et les prendre en photo. Je posais la question pourquoi. Ils m'ont dit ouais, c'est le procédure et tout. J'ai trouvé pas ça normal. Je commençais à refuser. Ils m'ont dit si tu refuses, on te met en garde à vue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pris en photo. Ils ont pris mes empreintes. Ils m'ont dit on va maintenant te mettre dans tes fichiers. Mais j'ai dit mais pourquoi vous faites ça? Ils m'ont dit c'est comme ça. Ils m'ont jamais répondu. Ils ont pris mes empreintes. Ils m'ont pris en photo. Après, ils m'ont relâché. Et ça, je trouve ça normal. C'était la première fois et depuis ce jour-là. J'ai tellement peur de la police, même si j'ai rien fait. Dès que je roule, dès que je vois des policiers en train de me parler, je panique. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Et, vous n'êtes pas un homme noir. Lorsque vous n'êtes pas un homme noir, vous n'avez pas vécu ça, vous n'allez pas comprendre.
Il a raison de s'inquiéter, alors, Antoine.
Ben voilà,
tu partages
Antoine
la même
n'est pas
inquiétude.
Un délinquant. Alors moi, je ne suis pas dans le discours « la police tue, la police est raciste ». Et d'ailleurs, moi, j'ai plusieurs policiers qui travaillent dans mon association et j'organise beaucoup de dialogues police-jeunesse. C'est pour ça que l'on peut être contre cette présomption et j'aime la police. Mais maintenant, effectivement, il arrive qu'il y ait des témoignages comme cela où vous avez des contrôles qui se passent mal, vous avez des mots qui vont au-delà de la déontologie et ce ne sont pas des choses qui arrivent rarement, ce sont des choses qui arrivent tous les jours, aussi minoritaires soient-ils dans le corps de la police, mais un policier qui déconne, c'est un policier de trop, parce que le policier représente la République. Donc, lorsqu'une personne a une mauvaise expérience avec un policier, eh ben, même dans son rapport à l'État, ben, ça peut créer des défaillances et des craintes.
Antoine, lui, nous a fait part de sa mauvaise expérience face au racisme et aux préjugés. Il craint que si on leur donne plus de pouvoir, ça dérape éventuellement. Rémi, dans la Drôme. Bonjour, Rémi.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes plutôt pour cette disposition pour les policiers?
Bah oui, complètement. Comment on fait dans ces cas-là pour que le gendarme fasse un petit peu peur aux gens, en fait? Comment on dissuade toute la délinquance actuelle? Moi, personnellement, je me suis fait déjà contrôler plusieurs fois. Quand on est courtois et poli, il se passe jamais rien, je suis désolé. Hein. Donc en fait, voilà, le gendarme a le droit à son autorité. Et si jamais il se sent en danger, bah, légitime défense de sortir de son arme, voire même de l'utiliser.
Donc, pour renforcer leur pouvoir.
Aujourd'hui, vous préférez qu'on protège les policiers, quoi, que les policiers se protègent.
Donc, dans ce cas-là, on ne protège plus l'État, quoi. Si on ne protège plus nos policiers, on en a baissé les
bras. Ah ben, justement, Rémi, puisque vous parlez de la police, on a Lilian qui est policier à la BAC qui veut intervenir. Bonjour, Lilian.
Bonjour.
Vous avez besoin, Lilian, de cette présomption de légitime défense?
On en a besoin. On va reprendre un cas récent qui a fait parler énormément. C'est le cas de Florian. Pour ce qui a été de Naël, se retrouver en détention provisoire quand on fait notre travail, il y a un gros souci là-dessus. Et du coup, les collègues réfléchissent de plus en plus avant de faire usage de leur arme,
voilà.
au point d'être blessés sur les interventions régulièrement.
Ça vous est arrivé, vous ?
D'être blessé sur un refus d'obtempérer, oui, et d'hésiter à faire usage de mon arme également.
Ah bah tiens, parce que Jérôme disait le contraire tout à l'heure, il disait que...
Je disais,
y a-t-il beaucoup policiers, est-ce que ça empêche les policiers de bien faire leur métier?
Lilian, qu'est-ce qui vous est arrivé
de se censurer?
Oui, mais dire est-ce que ça empêche, c'est pas dire le contraire, c'est poser une question.
Lilian, qu'est-ce qui vous est arrivé dans le refus d'obtempérer, alors dites-moi.
On est sur un refus d'obtempérer, l'individu vient cartonner des voitures qui sont sur le côté. Et en fait, au moment où il enclenche la marche arrière pour tenter de partir, j'ai mon collègue qui est juste derrière la voiture. Et en fait, ce qui fait que je tire pas, c'est parce que au moment où il recule, en fait, il est bloqué par un poteau. Et il recule pas, il va pas percuter, il peut pas venir percuter mon collègue.
Vos vies auraient pu être en danger?
Ah ben, pour le coup, moi, j'étais un peu écarté, donc non. Par contre, la vie de mon collègue, oui, complètement.
Il aurait par pu contre, être écrasé par le véhicule. Ouais.
C'est pas parce qu'on a, pas de présomption de présomption de légitime défense qu'on fait pas bien notre travail. C'est pas ça qui nous empêche de faire notre travail. L'usage d'armes, c'est quelque chose qui est très rare. Tous les collègues veulent faire leur carrière sans faire usage de leur arme.
Exactement.
Donc, mais ce serait un plus pour nous et pour notre sécurité et pour pas finir en détention provisoire.
Bien sûr. Ouais. Lilian, je vous remercie de ce témoignage policier à la BAC. Merci à Lilian, Rémi et Antoine d'avoir réagi. Alors, pour une présomption de légitime défense pour les policiers, oui ou non? On va voir ce que vous en pensez. Vous dites oui, il faut le faire, c'est une bonne idée, à 82,6%. Dans un instant, le président de la République, l'effet lunette, l'effet je conteste ce que dit Donald Trump, je le traite de brut. Est-ce que le président Macron peut de nouveau avoir la cote grâce à ce qu'il a fait? 32-16 pour en reparler avec les GG, avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story pour de la discussion, pour du débat, comme tous les jours, de 9h à midi. Abel Boyer, l'éducateur, est là. Jérôme Marty, le médecin généraliste, est notre aussi. Ça y est, Laura Varton-Martinez a réussi à arriver jusqu'au studio. La sophrologue, bonjour Laura.
Bonjour, pardonnez-moi à tous.
Dans les GG, dans les grandes gueules, je propose qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette semaine. Les images qui ont fait le tour du monde, qui inspirent même les démocrates américains.
dans leur lutte contre Donald Trump. Le président de la République, Emmanuel Macron, a résisté à Trump. Est-ce qu'il va avoir de nouveau la cote en France, Emmanuel Macron ?
Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure.
Sure, for sure.
Là, c'est répété, c'est excellent.
For sure.
Pourquoi est-ce qu'il quitterait ses lunettes maintenant, le président de la République? Il pourrait les garder jusqu'en 2027. De toute façon, même s'il ne se représente pas, c'est l'effet lunettes.
Bah, les lunettes de Macron sont devenues le symbole de la rébellion face à Trump. Ces lunettes, alors c'est le discours bien sûr qui va avec les lunettes, parce que s'il avait porté ses lunettes, il avait tenu un discours assez plat et qui se couchait devant le président américain. Non, il symbolise la résistance. Il fallait dire à un moment donné stop à Trump, qui auparavant dans son discours, enfin quelques heures après dans son discours, allait taper sur l'Europe à bras raccourcis. Donc comme en Europe il n'y a pas beaucoup de leaders, Emmanuel Macron veut occuper la place. Ce qui est assez intéressant, c'est que ses lunettes effectivement sont devenues le symbole, même aux États-Unis, de la résistance à Trump. Après, il était très impopulaire. Il reste impopulaire. Je regardais les derniers sondages. Il bat encore des records d'impopularité. Est-ce qu'on peut retomber amoureux d'Emmanuel Macron? Hier, Joël Dagosséry nous disait qu'elle était à demi rabibochée.
Elle était rabie.
Mais pas encore bochée.
Elle
qui a été très fan d'Emmanuel Macron en 2017. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous-même, vous dites, bah, quand même, ce président qu'on critique, et ben il a bien fait.
L'immense c'est Barbara Lefebvre.
En plus, il parle anglais comme nous, c'est-à-dire on le comprend.
Oui, mais mieux que
Non, franchement, l'immense ça serait Barbara Lefebvre. Là, oui.
Ah oui. Si le jour où Barbara dit qu'il vient d'Emmanuel Macron. Là,
c'est vraiment l'étalon, c'est ça, quoi, en fait. Quoi. Mais non, chapeau l'artiste, quoi. Chapeau l'artiste, ça a été, la séquence, elle a été préparée, à mon avis, elle a été répétée. Même sur sa façon de parler anglais, on sait qu'il parle anglais beaucoup mieux que ça, absolument sans accent.
Là,
il a rajouté de l'accent français dans sa déclaration. La posture, la séquence temporelle, enfin tout était bon et raccord. Il a pris le lead, tu l'as dit, sur les autres dirigeants européens. Il est passé comme l'adversaire numéro un de Trump. À un moment où Trump s'attaque à la fois à la souveraineté française, européenne, etc. Donc, franchement, chapeau l'artiste. Et est-ce qu'on peut retomber en pamoison devant Macron? Alors peut-être pas sur le plan intérieur, mais sur le plan de la politique extérieure. Bravo. Je le dis absolument sans aucun état d'âme, oui. Aujourd'hui je ne vois pas quel dirigeant français, honnêtement, hein, que ce soit à droite, alors à l'extrême droite j'en parle pas parce qu'on sait quelle position ils ont par rapport à Trump, à l'extrême gauche aussi, à la gauche aussi, je vois pas quel autre dirigeant pourrait avoir cette stature internationale aujourd'hui. Franchement. Donc, ouais, chapeau l'artiste, quoi.
Laura?
Oh, Jérôme, on n'est tellement pas d'accord, mais tant mieux.
Eh ben oui, mais tant mieux.
Mais tant mieux, sinon on se serait embêté. Enfin, on a beaucoup plus parlé de ses lunettes que de son discours. Je ne trouve pas que Emmanuel Macron ait brillé pendant ces événements-là. On peut penser ce que l'on veut de Trump, qu'il est fou, que tout ce qu'il n'y a pas de souci. Moi, je dis chapeau Trump. Je dis chapeau Trump. Au-delà de ce que je pense de ce qu'il a fait, il a réussi d'une main de maître avec les outils qu'il a, c'est avoir des outils économiques, chose que l'on n'a pas. Et pardon. Il a réussi, il a tout ce qu'il voulait. Il va avoir des bases militaires pour créer son dôme doré. Il va avoir le pétrole et il va avoir les ports maritimes. Donc, celui qui a gagné pour moi, c'est Trump et c'est loin d'être Monsieur Macron. Vous trouvez que la France, elle va bien en ce moment et qu'on peut se réjouir qu'on est Top Gun à la tête de l'État? Enfin, hier, il me semble que c'était hier, il a quand même posé avec Maître Gims en mode resta pour les pièces jaunes.
Pour les pièces jaunes,
ouais. On c'est ça notre président. Je suis désolée, c'est ça notre président.
Ça c'est parce qu'il est l'opération caritative, c'est les pièces jaunes.
Mais je te répondrai après.
Oui, non, mais il y a pas de souci avec grand plaisir, Jérôme. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron y brille. Ok, il a voté non pour le Mercosur. Au final, il a tellement léché les bottes de l'Europe pendant des années que le Mercosur, il va quand même passer parce que le Parlement européen et Mme von der Leyen, ils font ce qu'ils veulent. Il a grondé Trump. Au final, c'est absolument pas Emmanuel Macron qui a fait flancher Trump. c'est absolument pas lui. C'est quand il s'est mis, quand il a vu que tout le monde boudait, parce qu'il n'y avait pas que Monsieur Macron qui ne voulait pas aller à son Conseil de la paix. Quand il a vu que la plupart des États membres de l'ONU ne voulaient pas y aller, il s'est dit bon bah peut-être que je vais être tout seul dans mon Conseil de la paix et que j'aurai pas mon prix Nobel de la paix. Donc je pense que c'est circonstanciel. En revanche, bravo au service de com, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Monsieur Macron est un mégalomane et que tant qu'on parle de lui, il est content, peu importe pourquoi.
Abel.
Moi, je suis un peu sur la position de Laura parce qu'il faut voir les résultats concrets. C'est-à-dire que là, on a affaire à un Tom Cruise de chez Wish version chinoise qui n'impressionne que lui-même.
Avec des lunettes
Version jurassienne.
Oui, voilà. Mettre des lunettes de soleil et dire je suis pas d'accord avec Donald Trump, ça vous permet d'avoir une posture gaullienne, parce que c'est un terme que j'ai entendu chez vos confrères d'LCI. Je trouve que vraiment on est tombé
bien
bas.
Regardez FM TV.
Aussi, bah s'il y en a qui ont sorti ça.
Non, c'est mais regarde plutôt BFM TV ici.
Oui, bien entendu, mais je suis fidèle à BFM TV.
Il regarde ici pour critiquer derrière.
Non, mais je répète, c'est un Tom Cruise de chez Wish, et je suis désolé, c'est le quotidien des Français qui compte, parce qu'aller de l'autre côté. En fait, il fait penser un petit peu à François Hollande, qui était nul sur le plan national et qui essayait de se redorer la pilule sur l'international. Mmh. Et c'est la stratégie un petit peu des présidents qui sont en fin de course. Est-ce que les Français vont mieux? Non. Est-ce que les PME et les TPE vont mieux? Non. Et est-ce que les Français vont tomber amoureux d'Emmanuel Macron? Je pense que non.
Regarde, que retient-on des années Chirac, qui a fait quand même 12 ans, hein, 7 et 5? On retient son non à l'intervention en Irak, le refus de participer à l'intervention américaine.
Tu penses que ça, c'est équivalent?
Dis oui, l'international. Mais finalement, le Chirac, aujourd'hui, on retient que ça. Il a fait. Si on voit avec un peu de recul, il a pas fait grand chose, Jacques Chirac, et c'est sous Chirac que d'ailleurs l'Allemagne est repassée devant nous et qu'on a perdu notre première place sur le plan économique et que aujourd'hui beaucoup de problèmes viennent de ces années-là parce qu'on n'a pas fait les réformes. Mais on retient quand même ce nom. Et d'ailleurs, Villepin, il surfe là-dessus. Il surfe sur ce nom à l'intervention. Peut-être que effectivement, c'est une image qu'il veut laisser, Emmanuel Macron, celui qui, en Europe, défend la souveraineté européenne face aux prédateurs à la fois russes et américains.
Et vous ne restez pas sur le terrain de la question. Je vous ai dit que sur la politique intérieure, évidemment... Il a manqué son quinquennat ou son deuxième quinquennat.
Jérôme.
Sur la politique extérieure, dans la situation actuelle, je te parle pas passé. Dans la situation actuelle, où nous sommes extrêmement menacés par un Trump fou, par qui nous fait une déclaration de 72 minutes avec un mensonge par phrase, où il dit quand même, parce que personne l'a relevé, mais moi ça m'a profondément choqué, où il dit hier soir, deuxième déclaration, qu'il n'y a pas eu d'engagement de force à côté des États-Unis en Afghanistan, que certes il y a eu des pays qui se sont engagés, mais qui sont restés sur les lignes arrières, oubliant qu'on a perdu 90 Français, que l'Angleterre en a perdu 450 ou 459, que plein d'autres pays en ont perdu. Donc il a craché sur nos soldats qui sont tombés au champ d'honneur.
Je te dis pas,
quand on a un chef d'État qui a le culot de s'attaquer à nos forces armées, qui a le culot de s'attaquer à notre nation, qui nous menace sur le plan économique, etc., et qu'on a quelqu'un qui prend le lead de la communication contre lui, en rappelant dans son discours ce qu'est l'Europe.
En disant, on a trop de normes,
mais nous sommes prévisibles. Et comme nous sommes prévisibles, ça vaut le coup d'investir chez nous et pas chez quelqu'un qui est imprévisible. Il a rappelé ce qu'était l'Europe et ce en quoi ce discours a plus énormément, justement, y compris aux Américains, en rappelant quelles sont nos forces par rapport à notre pays. C'est en ça que ce discours a été intéressant. Moi, je ne me suis pas arrêté aux lunettes, je suis désolé.
Mais moi non plus.
Le discours a été intéressant, et tu as raison, Olivier, ce discours peut effectivement marquer sur le souvenir d'un quinquennat, exactement comme celui de Villepin à l'époque.
Mais pour quel résultat?
Nous allons le voir. C'est pour ça que je vous parle de la séquence.
La majorité des pays européens se fournissent avec des armes américaines. Certains médias parlaient de guerre, mais comment tu peux attaquer un pays qui est ton principal fournisseur dans ta sphère de défense? On parle de l'Allemagne. La France est inféodée à l'Allemagne, qui est inféodée aux États-Unis. L'Allemagne, il y a la guerre en Ukraine qui éclate. L'Allemagne a besoin d'avions. Est-ce qu'elle a pris nos virages? Non, elle a pris des avions américains.
Et l'Europe, c'est une unité de façade
parce que moi, je pense que l'Europe, elle est disloquée. Les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de l'Allemagne, ne sont pas les intérêts de la Hongrie, ne sont pas les intérêts de l'Italie. Je suis désolé.
Vous oubliez juste une chose.
On a envoyé quelques soldats. Après, je te laisse finir. On a envoyé quelques soldats au Groenland. 15. Trump a tapé du poing sur la table. L'Allemagne les a retirés tout de suite.
Vous oubliez juste une chose.
Donc, elle est où l'Union européenne?
Vous oubliez juste une chose. C'est que dans les semaines ou mois qui viennent, les menaces ne vont faire que grandir. Et dès l'instant où les menaces ne vont faire que grandir, ça peut fonder l'Europe un peu plus.
Qui est le principal financier de l'OTAN?
Ça peut fonder l'Europe un peu plus. Actuellement, quand même, c'est quand même formidable. Oui, parce qu'on a quelqu'un, on a quelqu'un qui à chaque fois pose des déclarations complètement folles et qui nous amène à discuter. Qu'il a créé un Conseil de l'Europe, qui est une espèce de bande
de
salopards.
Conseil de la paix.
Qui est une Conseil de la paix, qui est une espèce de bande de salopards où il y a que des dictateurs et des pays qui sont vraiment pas amoureux de la démocratie. Et on discute de ça en disant, ah, le conseil de la paix de Monsieur Trump. Mais on est chez les fous.
Mais il y a personne qui a dit ça.
On est chez les fous. Mais il y a quoi des
gens qui ont dit ça? Il y a pas que Macron qui a pas voulu y aller. Personne ne voulait y aller.
Alors qui se met en avant contre ça? Mélanie?
Mais tout le monde!
Arrête un peu!
Mais au final, on va se coucher économiquement!
Mais non, on ne couchera pas!
L'Europe, regarde, tellement c'est logique, je me mélange. L'Europe est en train de signer le Mercosur. Mais non, mais voilà.
Et qu'est-ce que vous auriez dit si Macron était pour le Mercosur à ce moment-là jusqu'à la fin?
C'est
fabuleux! Il est pour!
Laisse-moi finir, s'il te plaît. T'as quand même Trump, là, qui est en train de mettre ses petits pieds tranquillement dans l'Amérique du Sud. Donc, il va faire exactement comme il l'a fait au Groenland. Il va choper l'Amérique du Sud. Donc, il va se récupérer.
Mais il a rien fait au Groenland.
Laisse-moi finir une phrase, s'il te plaît, Jérôme.
Il a rien fait.
Non, mais attends. Chacun finit sa phrase.
Donc là, économiquement, on va être, grâce au Mercosur, pieds et poings liés face à l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et comme le disait Abel, s'il y a une guerre, toutes nos armes et tous nos avions sont américains. S'ils appuient sur un bouton, ça part. Si les Américains décident de ne pas déclencher les armes et les avions, il n'y a pas de guerre.
Je n'ai pas ouï dire que nous ayons des F-35 en France. Il me semble pas.
La question est de savoir, c'est est-ce
que quelle est la première armée européenne? Sinon la France.
Oui, c'est la nôtre.
Voilà. Est-ce qu'on a des F-35? Non. Alors, s'il vous plaît.
On a des Rafales.
Mais intéressez-vous un peu, quoi.
Simplement, Jérôme, la question est de savoir.
On va aller loin avec nos 12 trucs.
Est-ce que Emmanuel Macron a les moyens de ses ambitions?
Pas du tout.
Je prendrai un exemple. La guerre en Ukraine, il est en première ligne pour soutenir Zelensky. La France n'est pas le premier contributeur parce qu'on n'a plus les moyens. Et on n'a pas les moyens de donner d'argent à l'Ukraine. Alors, donc, tu veux, il y a toujours un décalage entre...
Oui, je l'entends.
C'est bien une raison pour laquelle le général de Villiers a démissionné.
Et sa faiblesse sur le plan français. Ouais.
Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron peut de nouveau avoir la cote? Oui ou non, Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut retomber amoureux d'Emmanuel Macron?
Ben voilà.
Non, 90%.
Ils sont même pas rabis. Ils ne sont rien du tout.
90%. Dans un instant, le 11 s'en fout pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story aujourd'hui. Laura Barton-Martinez, le docteur Jérôme Marty, Abel Bouillet, un éducateur, une sophrologue et le médecin, bien évidemment. Il est 10h moins le quart. On va faire le on s'en fout pas avec Anaïs Inès Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout pas. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. LFI doit incarner au municipal la nouvelle France de la diversité, celle du grand remplacement. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier lors d'un meeting à Toulouse. Écoutez.
Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur.
Voilà, le leader de la France insoumise. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Laura?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Jérôme?
On s'en fout pas.
Jérôme, pourquoi tu t'en fous pas?
Parce que j'en ai marre qu'on monte les Français les uns contre les autres. Il sait très bien à quoi il joue, là, quand il fait ça, Mélenchon. Il sait très bien quand il emploie le terme... horrifique de grand remplacement. Il use de théories dont l'extrême droite use. Il sait très bien qu'il va monter les gens contre lui, mais ce qu'il veut, c'est un rapport binaire, lui. il veut incarner une force contre une autre force et écarter tout ce qui est en fait républicain, tout ce qui est un petit peu pour la paix, tout ce qui est pour l'intelligence en politique. Là, il donne des coups et uniquement ça. Et en fait, il me fait penser passez-moi le raisonnement, mais à ces vieux rugbymen qui ont perdu leur capacité à avoir du style de jeu et qui compensent par la violence, quoi. Et Mélenchon, c'est ça, quoi.
Laura.
C'est la violence. À chaque minute, à chaque parole, et il y en a marre, quoi, franchement.
C'est exactement l'analyse que j'avais partagée avec un député LFI sur une émission de BFM où je disais que depuis que LFI a réellement une place médiatique, on ne fait qu'accentuer la violence. On voit la violence qui se développe de tous les côtés, et je parle pas forcément d'une violence physique, je parle aussi des violences verbales, émotionnelles et de la disparité de la société. Parce que quand on regarde vraiment, le sujet principal des Français, c'est la sécurité. C'est pas les vieux qui trouvent plus de boulot, les jeunes qui trouvent plus de boulot, c'est la sécurité. Ensuite, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat et la santé. Donc ce ne sont que des sujets qui rassemblent, et plutôt de faire une société féodée autour de tous ces sujets, encore une fois, la seule carte qui lui reste...
Fédéré, pardon.
La seule carte qui lui reste pour garder, et je pense que c'est ça, parce que j'ai essayé de réfléchir en me disant, mais est-ce que les gens d'LFI croient vraiment en ce qu'ils disent? Et je pense que non, ou alors ils ont vraiment des problèmes. Je pense que le seul moyen qu'ils ont pour essayer de garder le plus de sièges et leur place et leur salaire et leurs avantages, c'est le communautarisme. Alors ça peut être un communautarisme religieux, d'âge, de ce qu'ils veulent, de pouvoir d'achat.
Abel.
Moi, ce que je n'aime pas avec LFI, comme avec d'autres partis de gauche, c'est le fait d'instrumentaliser les Arabes et les Noirs, en fait, comme s'ils étaient les seuls défenseurs, comme si le racisme n'existait pas à gauche. Et moi, je pense qu'il faut unir. Le racisme, il faut le combattre, mais il y a des gens qui sont juste inquiets, qui ont besoin d'être rassurés et qui sont mis dans la case raciste de façon injuste, en fait. Donc, je trouve que c'est un discours qui est clivant et qui ne fait du bien ni à la France, mais ni aux personnes qu'il prétend défendre. Oui. Parce qu'après, sur le terrain, c'est nous qui nous faisons insulter à cause de leur excès de zèle. Donc, ils se rendent pas compte que c'est contre-productif en réalité.
Un Français sur 10, les GG, a déjà consommé au moins une fois de la cocaïne.
On est combien, plateau, là ?
Docteur Marty, on est moins de 10. Bah, tu t'en fous ou pas ?
Non, on s'en fout pas, bien sûr.
Abel.
On s'en fout pas du tout.
Laura.
On s'en fout pas.
C'était un Français sur 50 il y a 20 ans seulement. L'offre a explosé, les prix ont chuté et la consommation de cocaïne s'est considérablement démocratisée. Les 25-34 sont les plus touchés et les demandes de prise en charge pour des problèmes liés à la cocaïne ont aussi doublé entre 2015 et 2019, docteur Marty, avec des délais d'attente de 3 à 6 mois quand même.
Ouais, c'est catastrophique. Si on suit la même courbe, on arrivera à un 5.
Ça a des médecins autour de toi, deux, quoi.
J'en sais rien, ils s'en mentent pas en tout cas, mais oui, ça doit exister, bien sûr, comme dans toute la société. Je veux dire, quand t'es à 1 sur 10, forcément, t'as toutes les classes sociales et toutes les professions. Ça existe dans le monde politique, ça existe dans le monde journalistique, ça existe dans le monde culturel, ça existe partout, dans les plus petits villages comme dans les plus grandes villes. Ça s'est étendu partout. C'est un échec complet de notre politique contre la drogue. Moi, je considère le consommateur comme un patient, pas comme un délinquant. Moi, je crois qu'il faut taper sans limite sur les trafiquants, mais vraiment sans limite. Mais par contre, il faut tout mettre en œuvre pour soigner les gens qui consomment, qui sont des patients. Or là, on fait des consommateurs des délinquants. Ça a montré que c'était un échec total, puisque ça ne cesse d'augmenter depuis des années. Donc il faut revoir notre politique contre la drogue, parce que sinon, je vous dis, on va passer à 1 sur 5, et puis demain 1 sur 10. Et la cocaïne, c'est quoi? C'est des désordres cognitifs, c'est des maladies cardiovasculaires, c'est des risques de propagation après d'infections comme le sida, l'hépatite, etc. Parce que les gens le prennent aussi en intraveineux avec des seringues dégueulasses, des aiguilles dégueulasses. Enfin, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur.
Laura.
Oui, et puis ça fait des ravages sur le plan psychiatrique. Et on sait à quel point la France est armée pour gérer les défaillances psychiatriques des gens. C'est un fléau. Moi, j'en ai jamais pris. C'est quelque chose qui me terrorise. Et en revanche, en restauration, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
Pour tenir le rythme, la cadence.
Voilà, moi je tournais alors avec les gummies, les gommes, le café, le machin et tout. Et je regardais mes collègues. Je me dis, mais attends, mais pourquoi eux ils ont pas les valises jusqu'aux genoux? Pourquoi ils ont pas mal partout? Et un jour on me dit, tiens, prends ça, tu vas voir. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. J'avais 17 ans, autant vous dire que non. Mais c'est partout parce que en fait, alors au-delà, je pense par rapport au shit, à toutes ces drogues-là.
Au shit.
Lapsus révélateur. Tu as dit au chiite.
Alors il y a les chiites, il faut gérer les chiites. Et les sunnites, il faut
vous avez deux barrettes de chiites. Ah non, mais j'ai du sunnite. Si voilà, tu veux.
Ça prouve à quel point je suis connaisseur du sujet.
J'aurais 20 grammes de sunnite. Voilà. Ah non, mais...
ça prouve à quel point je suis connaisseur
du sujet. 3 kilos de chiites.
Je suis connaisseur du sujet, mais avant c'était réservé voilà, au métier. Je pense aux chauffeurs-livreurs, je pense aux restaurateurs. Bobo, tu arrêtes maintenant.
Non, mais là, tu nous as mis le truc.
Tu suffis.
T'es sûr que tu prends pas de coke?
Non. Ouais, bah non, sinon j'éviterais de dire des blagues pareilles.
C'est ça qui est grave.
Non, mais surtout qu'il faut expliquer, je parle sous ton contrôle, c'est que pourquoi la cocaïne se démocratise. Avant, on disait que la cocaïne, c'était pour les riches et le crack, voilà, c'est du pouf. Mais aujourd'hui, vous avez la cocaïne naturelle, donc qui vient de là. Et vous avez la cocaïne de synthèse, en fait, ouais, qui est encore plus dangereuse pour la santé, qui est beaucoup moins chère, qui en vote notamment sur Snapchat ou autre. Et il faut que le gouvernement tape fort sur la prévention, mais qu'on arrête l'hypocrisie.
Alors, comment tu fais la prévention de la cocaïne? Vas-y, explique-moi.
Bah, déjà, il y en a pas du tout, mais.
Il n'y a jamais de campagne.
Tu mets des photos
de campagne.
Mais comment tu fais?
Tu sais, il y a un truc que j'ai trouvé
quand
très intéressant.
Aujourd'hui, dans les films Netflix ou les séries, t'as quasiment quelqu'un qui fume un pet l'alcool est légal.
Non, mais tu fais le même modèle que ce qu'il y a pour la sécurité routière avec des pubs qui sont assez trash. Il y a eu un clip notamment qui est sorti pendant le Covid où tu voyais une personne qui avait un accident de voiture. Il est hospitalisé et au début, tu voyais son corps était en entier. Puis il perdait un morceau de son bras, puis il perdait sa jambe. Et c'était des images qui étaient extrêmement marquantes. Et je pense qu'au niveau de la cocaïne, il faut vraiment montrer les dégâts que ça fait en montrant l'état d'un corps lamentable quand on arrive au bout du bout de la dépendance. Et l'autre chose aussi, c'est l'hypocrisie du gouvernement, parce qu'on sait comment ça se passe au niveau de la vérification des containers. On a parlé du port du Havre de Marseille, on a reçu Frédéric Lauze et Frédéric Ploquin. Quand on sait que moins de 5% des containers sont inspectés, eh ben aussi, faut pas qu'on s'étonne que l'explosion de cette consommation...
Regarde, avec les dockers, c'est pas un hasard que les dockers, ce soit de père en fils, nanana...
Oui, mais là, il faut, faut surtout s'interroger sur pourquoi les médecins, pourquoi dans la restauration, pourquoi dans bon nombre de professions, pourquoi même chez les pompiers, chez les policiers.
Mais parce que c'est pas une drogue, c'est pas une drogue, en fait, c'est pas une drogue récréative, c'est une drogue de la performance.
Exactement.
Et dans la société où que l'on vit, ben, la performance, c'est recherché, et donc
c'est comme si tu étais un téléphone en surcharge quand tu en consommes, en fait, avec l'illusion de te sentir mieux. Et ce qui est terrible, c'est la descente en réalité.
Tu tiens le rythme, t'es performant, tu piges vite, et comme tu redescends et qu'il faut continuer et que tu peux pas te permettre de redescendre parce que ton rythme est censé continuer, Tu en reprends. Et tu regardes. Moi, je regardais les reportages sur les tueurs en série, etc. Ou les gens aux États-Unis. Tu regardes les photos des gens avant la drogue et les photos des gens après. Mm-hmm. Je peux te jurer que ça te refroidit.
Mais si ça fonctionnait comme les fusils. Rappelez-vous quand l'État a demandé aux gens d'aller rendre leurs fusils dans les gendarmeries et dans les commissariats. Ayons le rêve fou qu'on dise aux gens allez rendre votre drogue, mais on serait très surpris par la file d'attente qu'il y aurait
et la prévention auprès de la jeunesse.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le stationnement payant. Apparemment, les Français sont champions de la fraude. Alors on prend les tickets handicapés pour avoir des heures gratuites, ou alors on ne paye pas. Alors est-ce que c'est de l'incivisme ou est-ce que c'est la révolte face à ce qu'on appelle le racket de l'eurodateur? 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.